Paul Féval, Les habits noirs, cinquième partie, l'arme invisible ou le secret des habits noirs. Avant-propos. Le présent récit est tout à fait indépendant des quatre séries qui ont été précédemment publiées. Les habits noirs, Cœur d'acier, La valeur de sabre, La rue de Jérusalem, et il n'est aucunement nécessaire de connaître l'une ou l'autre de ces histoires pour suivre l'action de notre drame. Néanmoins, nous jugeons utile de présenter ici en quelques mots la physionomie vraie de la redoutable association défigurée aux yeux du public par le hasard d'une de ces rencontres judiciaires qu'on appelle les causes célèbres. La contrefaçon se glisse partout, même dans le sombre commerce qui brave le bagne et l'échafaud. Quelques vulgaires coquins vinrent un jour s'asseoir sur les bancs de la cour d'assises, où ils avouèrent, non sans un naïf orgueil, qu'ils étaient les habits noirs. C'était là une vanité. S'ils eussent été les habits noirs, la cour d'assises ne les aurait pas jugés. En effet, la base même de l'association du « fera-t-il jour demain » était la sécurité presque merveilleuse dont jouissaient tous ses membres, au moyen du mécanisme savant qui, pour eux, payait la loi. Pendant les trois quarts d'un siècle, la justice et la police firent le siège de cette étrange forteresse sans jamais pouvoir y entrer. Une muraille magique semblait la ceindre, et n'eussent été quelques filous à la tête desquels un vaudevilliste sans ouvrage vint jouer au palais la dernière scène de sa piteuse comédie, on pourrait affirmer qu'aucune trace de cette raison sociale, si tristement légendaire, les habits noirs, n'existe dans les différents greffes d'Europe. Et pourtant, il est bien avéré que la confrérie promenait son quartier général tantôt à Paris, tantôt à Londres. Sous la monarchie de Juillet, les capitales allemandes, Vienne, Berlin, Dresde, Munich, lui fournirent d'abondantes récoltes. Du temps de la Restauration, Naples, qui était son berceau, l'avait vu refleurir avec le fameux Bel Demonio, maître des compagnons du silence. 20 ans auparavant, en Angleterre, un multiple et mystérieux personnage, Thomas Brown, Jean Diable, avait ressuscité le Great Family des voleurs de Londres, en donnant aux gentilshommes de la nuit le nouveau nom de Black Coats, habits noirs. Pourquoi tous ces bandits, commandant à de nombreuses armées, étaient-ils restés invisibles et insaisissables? Pourquoi l'égide qui semblait les protéger en face de la loi couvrait-elle aussi leurs lieutenants et jusqu'à leurs soldats? C'est que, retournant la loi contre eux-mêmes, un coquin de génie avait inventé pour eux l'assurance en cas de crime. Lorsque je révélai pour la première fois ce très curieux mystère, on m'accusa de jouer avec le feu. Mais je répondis la vérité même. Le procédé était connu de tous les malfaiteurs, il ne restait déjà plus que les honnêtes gens à instruire. Nos temps modernes n'édictent plus de lois fondamentales. Ce sont les Romains qui ont bâti ces larges monuments dont les pierres, solidement cimentées, ont résisté à l'injure des siècles. Sauf de rares exceptions, nos législateurs se logent dans des maisons toutes bâties. Les vieux Romains, courts et carrés comme leurs glaives, parlaient par axiome, coulant dans le même bronze l'erreur avec la vérité. Ce sont eux qui ont inventé le prodigieux apophthegme « l'exception confirme la règle », à l'aide duquel Tartuffe dialecticien pourrait mettre la logique universelle dans sa poche. Ils pensaient ne tuer que l'exception, mais c'est la règle même qu'ils assassinaient par ce hardi mensonge. Dans leurs lois, ils partent souvent ainsi de tels faits contestables érigés par eux en solennelle évidence. Ces considérations, abstraites en apparence, ne nous éloignent pas de notre sujet. L'association des habits noirs était fondée sur un des plus célèbres parmi les dictons de la jurisprudence romaine, non bis in idem, et qu'il faut paraphraser ainsi pour le rendre intelligible, ne punissez pas deux hommes pour un seul crime. Ce fut peut-être dans le principe une barrière opposée à la gourmandise proverbiale de Dame Tinmis, mais on peut dire que jamais règle ne se confirma par de plus lamentables exceptions. Elle a deux torts. Elle suppose en premier lieu l'infaillibilité du juge. Encore une règle que des exceptions terribles, les erreurs judiciaires, viennent trop souvent confirmer. Ensuite, elle compte sur la naïveté des bandits, ce qui dépasse les bornes de l'enfantillage. Le crime est prudent et instruit, il va à l'école. Depuis que cette légende écrite sur la porte qui mène au supplice a, pour la première fois, crié au docteur Scélératès, fais passer un autre à ta place et tout sera dit, combien d'innocents, poussés par la force ou entraînés par la ruse, ont-ils franchi le seuil fatal? Une fois le seuil franchi, la loi payée biffe le crime au doigt et à la voix de son grand livre. Alors Thémis, sereine, ayant balancé ses écritures, dort appuyée sur le glaive qui jamais ne peut se tromper. Jamais, la loi l'a dit, et les têtes coupées ne parlent pas. Il y a telles exceptions plus connues que le loup blanc, le surgue par exemple, qui dorment aussi côte à côte avec la loi et semble destiné à confirmer la règle jusqu'à la consommation des siècles. L'Italie fut toujours la terre classique du brigandage. Vers la fin du siècle dernier, le fameux Fra Diavolo réunit sous sa carabine les Camorres deuxième et troisième, composés des bandes calabraises et siciliennes, auxquelles se joignirent les proscrits réfugiés sur le versant de l'Apennin qui descend vers la Capilante. La terreur publique fit bientôt une renommée à ces bandits qu'on appelait les Veste Nere à cause de leur costume. Les gouvernements de Naples et de Rome mirent à prix la tête de leur chef, ce qui n'empêcha point le cardinal Ruffo de les enrôler militairement et de les lancer contre nos soldats en 1799. Les Veste Nere combattirent et pillèrent autour de Naples de 1799 à 1806, époque où Michel Pozza, d'autres disent Pozzo ou Bozzo, surnommé Fra Diavolo, périt sur l'échafaud. Les livres disent cela, mais dans l'Italie du Sud, on écrit autrement l'histoire. Dès le lendemain de l'exécution, Fra Diavolo traversait les Abruzzes et gravissait les sentiers de la montagne. Il semble certain que plusieurs chefs, soit imposture, soit simple droit de succession, portèrent ce nom de Fra Diavolo. Le dernier quitta le pays de Naples avant la chute du roi Murat et acquit dans l'île de Corse, à beau denier comptant, un domaine considérable possédé jadis par les moines de la Mercy. Les mille gorges qui sillonnent la montagne d'Ascoli jusqu'à Cosenza n'en devinrent pas beaucoup plus sûrs, car les bandits, adonnés au tromblon et à la guitare, croissent là-bas en pleine terre avec une effrayante abondance. Mais les Veste Nere avaient disparu. En revanche, on commença à parler des habits noirs en France et des black coats en Angleterre, habits noirs comme black coat étant la traduction littérale de Vesta Nera. Quedant armatogai, l'association mettait un terme à ces folies de jeunesse. Après Romulus, qui ne connaît que l'épée, vient toujours un pacifique Numa dont le rôle est de remplacer la violence stérile par d'intelligents et profitables efforts. Parvenue à cette période de maturité, la confrérie des habits noirs garda son but en changeant ses moyens. Le crime était toujours l'objet unique de son commerce, mais non plus le crime brutal accompli aux risques et périls du malfaiteur. Le maître, ou pour parler la langue technique des Veste Nere, le père à tous, il padre d'ogni, l'homme impassible et rusé, noble de naissance, ruiné dès longtemps par le jeu, mais ayant toujours gardé de grands dehors, avait précisément ce qu'il fallait pour organiser la terrible cité du brigandage international. Les circonstances le favorisèrent. La restauration des Bourbons mit l'Europe en trouble juste au début de son entreprise et fit de Paris une foire cosmopolite où les romans les plus audacieux pouvaient se nouer impunément. Ce fut cependant cet âge d'or de la fraude où le comte Ponty de Sainte-Hélène, forçat évadé, commandait une légion de la garde nationale parisienne et passait la revue du roi dans la cour des Tuileries, que s'organisa aisément au milieu du tohu-bohu politique ce qu'on pouvait appeler la commandite générale du meurtre et du vol. L'histoire de cet étrange comptoir n'a point de pièce justificative, parce que le principe même de sa formation élevait une barrière entre lui et les tribunaux. C'est presque toujours l'instruction criminelle qui rassemble ou qui crée les matériaux écrits dont l'ensemble donne un cachet historique aux prouesses des malfaiteurs. Mais ici, néant. Les habits noirs n'eurent jamais de procès, grâce à cette ingénieuse et redoutable combinaison qui, pour chacun de leurs méfaits, jetait un coupable en pâture à la loi. Ils tuaient deux fois. Ils tuaient Pierre, par exemple, pour avoir sa bourse, et jetaient Paul entre les jambes de la justice, qui courait après le voleur de la bourse de Pierre. Cela faisait un coup de hache qui raturait le coup de couteau. Cependant, si les documents officiels font défaut, les preuves légendaires abondent, et toute personne assez malheureuse pour avoir passé la cinquantaine se souvient des paniques qui firent trembler Paris sous le règne de Charles X et de Louis-Philippe. Paris traduit à sa façon toute parole dont il ignore la véritable étymologie. Ces deux mots réunis, les habits noirs, après avoir tenté sa curiosité, prirent pour lui une signification menaçante. L'habit noir est l'uniforme des gens du monde. Paris supposa que la bande fashionable s'était titrée ainsi pour bien établir la différence qui la séparait du commun des coquins dont la toilette est généralement peu soignée. Son imagination s'échauffa et il fabriqua lui-même le type d'une société mystérieuse recrutant ses affiliés dans les classes les plus élevées de l'ordre social. Paris ne se trompait pas tout à fait. Il y avait dans le conseil des habits noirs plusieurs gentilshommes déclassés, une vraie comtesse et un prétendant, Louis XVII, qui opérait ses pêches miraculeuses dans le faubourg Saint-Germain. En outre, le maître était un homme considérable dont l'influence allait haut et loin. Il dépensait noblement de larges revenus et le respect public entourait sa vieillesse. Le siège de la société n'était, à proprement parler, nulle part, et suivait le scapulaire, signe de maîtrise choisi par le père à tous en souvenir des moines de la Merci. L'ancien couvent de ces derniers, situé dans l'île de Corse, au pays de Sartène, servait de place forte à l'association. Le maître y avait fondé un hospice, et c'était là que les soldats blessés ou compromis de la ténébreuse armée trouvaient un asile. Cette page préliminaire résume les explications contenues dans les quatre romans qui ont pour sujet commun les habits noirs. Le reste appartient à notre drame. Un mot encore. Mon ami et confrère Émile Gaboriau a rendu célèbre le nom d'un de nos personnages, Monsieur Lecoq. Je ne prétends pas du tout qu'il m'ait pris ce nom, mais comme je ne veux point être accusé de le lui avoir emprunté moi-même, je constate ici que l'affaire Le Rouge, où Gaboriau parle pour la première fois de son Monsieur Lecoq, a paru 2 ans après les habits noirs, où mon Monsieur Lecoq remplissait déjà le rôle principal. Chapitre 1er. Les diamants de Mademoiselle Bernetti. Un soir de vendredi, vers la fin de septembre en 1838, à la tombée de la nuit, le garçon du marchand revendeur établi à l'angle des rues Dupuis et de Vendôme était en train de fermer la boutique lorsqu'un élégant coupé s'arrêta devant la porte. Les échoppes du quartier du Temple reçoivent souvent d'aussi belles visites que les magasins à la mode. Le faubourg Saint-Germain et la chaussée d'Antin ont appris dès longtemps le chemin de cette foire et y viennent en tapinois, soit pour acheter, soit pour vendre. Le garçon remit à terre le volet qu'il avait déjà soulevé à demi et attendit, pensant que la portière du coupé allait s'ouvrir, mais la portière ne s'ouvrit point, et le store rouge qui défendait l'intérieur de la voiture contre les regards curieux resta baissé. Le cocher, beau garçon au teint fleuri, planta son fouet dans la gaine comme s'il eût été arrivé au terme de sa course, et tira de sa poche une pipe qu'il bourra paisiblement. Le garçon, quoiqu'il fût d'Alsace, connaissait assez bien son pari, car il se demanda « Est-ce un monsieur qui attend une dame là-dedans ou une dame qui espère un monsieur ?» Et avant de reprendre le volet, il tourna le coin de la rue de Vendôme pour voir à quel sexe appartenait le retardataire. Il se trouva tout à coup en face d'un bon gros père qui arrivait, les mains dans ses manches, et qui le salua d'un débonnaire sourire. « Ah, tiens, tiens, dit le garçon, c'est monsieur l'amitié qui venait voir le patron. Vous n'avez pas de chance, papa Koenig et sa dame viennent de partir pour leur petit jardin de Saint-Mandé. Des propriétaires, quoi. Ça n'est heureux que dans leur campagne. Un carré de gazon, large comme un mouchoir, et 12 manches à balai, qui ont chacun 3 feuilles malades. Faudra-t-il dire quelque chose au patron de votre part ? Monsieur Lamitier l'écarta du coude et continua sa route, après lui avoir adressé un signe de tête amical. C'était un homme jeune encore, à ne regarder que ses yeux vifs et rieurs, mais il portait une barbe grisonnante, très mal peignée, qui trahissait l'approche de la cinquantaine. Sous les plis d'une houppelante délabrée et très large, qui semblait venir en droite ligne de la Judengasse de Francfort, on pouvait deviner la remarquable carrure de ses épaules. Il marchait sans bruit, avec une paire de ces doubles bottes fourrées que les voyageurs mettaient par-dessus leurs chaussures au temps où il y avait des diligences. En passant devant le cocher, bien mieux habillé que lui, il secoua la tête doucement, puis il franchit le seuil de la boutique. « Quand je vous dis que le patron est sorti, » marmottait derrière lui le garçon alsacien. Monsieur Lamitier, gardant toujours ses mains dans ses manches, traversa le magasin encombré de débris misérables, parmi lesquels on eut découvert quelques meubles de prix et de riches étoffes. Parvenu à la porte du fond, il l'ouvrit en silence et continua sa route. « Ah ça, ah ça !» s'écria l'Alsacien. « Êtes-vous sourd, l'homme, quand je vous dis ?» Il n'acheva pas. Monsieur Lamitier s'était enfin arrêté. Sa main se posa sur l'épaule du garçon, qu'il regarda en face, et il prononça à tout bas ces 3 mots. « Il fait jour !» L'Alsacien recula de plusieurs pas, et son visage naïf exprima la consternation la plus complète. « Faut-il en avoir du guignon ? » grommela-t-il en crispant ses doigts dans ses cheveux. « M'être mis dans un pareil pétrin pour une fois que je me suis fait payer à boire. À Paris, avant de parler à quelqu'un, faudrait lui demander ses papiers. » Monsieur Lamitier approuva du bonnet et choisit un bon vieux fauteuil où il s'assit commodément. « Tu parles comme un livre, Meyer, mon ami, » dit-il d'un ton joux et jovial. « Est-ce que tu as les clés de la cave ?» Meyer haussa les épaules, et monsieur Lamitier reprit. « Non, le père Koenig est un homme prudent. Alors va-t'en au cabaret me chercher une bouteille de Mâcon cachetée à 25. » L'Alsacien se dirigeait vers la porte. Monsieur Lamitier l'arrêta. « Attends, » continua-t-il, « je vais te donner toutes les instructions d'un seul coup. Tu viens toi-même de constater le faible de ton maître pour les plaisirs des champs. En conséquence, nous n'avons nulle crainte d'être dérangés. Jusqu'à voir, je suis ici chez moi. Comment, chez vous ? » voulut interrompre Meyer. « Tais-toi ! Il va venir un brave jeune homme d'une trentaine d'années, un peu boiteux, et qui se sert en marchant d'une grosse canne de jonc à pommes d'ivoire. Il te demandera si Monsieur Koenig est à la maison, et tu lui répondras « oui ». L'Alsacien protesta par un geste énergique, mais il baissa les yeux sous le regard de Monsieur Lamitier, qui poursuivit « Et tu diras, en t'adressant à moi, « Patron, v'là quelqu'un qui voudrait vous parler. Je consentirai à recevoir le visiteur en question, et comme il m'est envoyé par un ami, je l'inviterai à prendre un verre de vin. Tu apporteras alors, comme si elle venait de la cave, la bouteille de cacheté à 25. Est-ce compris ?»« Pourquoi tout cela ?» demanda Meyer. « Est-ce compris ?» répéta Monsieur Lamitier. L'Alsacien laissa échapper un geste d'impuissante colère. « Et après ? » demanda-t-il. « Après, tu fermeras ta devanture et tu iras te promener. »« Mais vous ? » ?»« Ne t'inquiète pas de moi, » répondit Monsieur Lamitier. « Vous coucherez ici ? » ?»« Il y a la petite porte de l'allée, mon fils. »« Elle est fermée. » »« Voici la clé. » Meyer resta bouche béante à regarder le loquet rouillé que son interlocuteur lui montrait. « Est-ce que papa Koenig en mange ?» balbutia-t-il. « Peut-être bien, » répliqua Lamitier, qui remit ses mains dans ses manches. Meyer avait les joues rouges jusqu'aux oreilles. « Écoutez, » s'écria-t-il, « tout ça a une mauvaise odeur, et vous êtes capable de faire un méchant coup. Je suis un honnête homme, vous allez prendre la porte et tout de suite où j'appelle la garde. » Monsieur Lamitier croisa l'une sur l'autre ses jambes lourdement chaussées et s'arrangea le plus commodément qu'il put dans son fauteuil. « Il y avait une fois, » dit-il sans élever la voix, « un jeune garçon qui faisait semblant de dormir sur une table du cabaret de la Pomme de Pin, pendant qu'on assassinait le receveur de la banque dans la salle voisine. Je dormais, fit Meyer avec épouvante. Je jure devant Dieu que je dormais. J'étais ivre pour la première fois de ma vie. On cherche ce jeune garçon, poursuivit Monsieur l'Amitié. As-tu quelquefois vu des billets doux comme celui-là, bonhomme? Sa main se plongea sous les revers de sa houppelande, et un papier frappé d'un large timbre vint tomber aux pieds de Meyer. Le malheureux garçon se pencha pour mieux voir, puis ses genoux fléchirent comme s'il eût reçu un coup sur la tête. « Un mandat d'amener, » prononça-t-il d'une voix étranglée. « Oui, je connais cela. J'ai été domestique au greffe de Colmar, et mon nom écrit en toutes lettres. Qui donc êtes-vous ? » « Peut-être un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, » répliqua Monsieur l'Amitié, dont le sourire devint cruel. « Parlons en français. Je suis en train de pêcher aujourd'hui un plus gros poisson que toi. Si tu marches droit, je fermerai un œil, et tu auras le temps d'aller te faire pendre ailleurs. Tiens, voilà un louis, va acheter le vin et garde la monnaie pour ton voyage. Si tu m'en crois, tu coucheras cette nuit sur la route d'Allemagne. » Meyer sortit d'un pas chancelant, ses cheveux hérissés remuaient sur son crâne. Un quart d'heure après, toujours dans l'arrière-boutique du papa Koenig, revendeur de vieilleries et amateur de joie champêtre, Monsieur l'Amitié était assis devant un guéridon soutenant une bouteille entamée, deux verres pleins et une chandelle de suif. De l'autre côté de la table s'asseyait le visiteur mystérieux dont il avait donné le signalement à Meyer. Meyer avait disparu. « Je suis tout joyeux, » disait Monsieur l'Amitié, qui parlait maintenant avec un léger accent allemand, « de faire la connaissance d'un compatriote et d'un coreligionnaire. Comment vont tous nos bons amis de Karlsruhe, mon cher Monsieur Hans ?»« Les uns bien, les autres mal, » répondit le visiteur, dont le visage accusait énergiquement le type israélite. L'Amitié frappa ses mains l'une contre l'autre. « Ah, voilà des réponses comme je les aime !» s'écria-t-il. « Passer le pont de Kehl de ce côté-ci, on ne rencontre plus que des fous qui parlent droit. Hé, mon frère !» Hans ne répondit que par un signe de tête approbateur. C'était un jeune homme aux traits pointus, à l'air maladif. Sa physionomie inquiète exprimait la dureté et la méfiance. « Trinquons, » reprit l'Amitié, qui affectait au contraire une extrême rondeur, « à la santé de Moïse, de Jacob, d'Isachar, de Jéroboam, de Nathan, de Salomon et des autres. » Les vers se choquèrent, et l'Amitié ajouta, « Comme cela, mon bon frère, vous voulez me vendre un petit tas de bric-à-brac. Ce ne sont pas des meubles, je pense, car le port serait cher du Grand-Duché jusqu'ici. » Ne serait-ce pas plutôt un lot d'étoffes? Ah, vous souriez, compère. Je parie qu'il y a de la dentelle. Il en passe à bas de tous les ans pour des millions, et sur de jolies épaules encore. Mais vous devez être un homme sage, Hans Spiegel. Vous laissez les épaules et vous ne vous occupez que des dentelles. Hans Spiegel souriait peut-être en dedans, mais sa figure restait morne et chagrine. « On m'a dit, » prononça-t-il tout bas, après avoir trempé ses lèvres dans son verre, sans boire, « que vous étiez homme à traiter au comptant une affaire d'une certaine importance. »« Au comptant, » répéta l'Amitié, au lieu de répondre, « au comptant, cela dépend, l'argent a peur, il se cache. Qu'est-ce que vous appelez une affaire importante, frère Hans ?» Spiegel rougit imperceptiblement, et répliqua en baissant la voix davantage, « Une affaire dans les 100, 200, peut-être 300 000 francs. »« Ah, vive Dieu !» s'écria l'Amitié. Les jolies épaules étaient donc diantrement chargées. Spiegel toussa d'un air mécontent. « D'ordinaire, dit-il avec sécheresse, les gens de notre état et de notre religion ne plaisantent pas quand ils parlent d'affaires. » L'Amitié répondit à son regard sévère par un coup d'œil humble mais narquois. « Bon, bon, » fit-il, « vous n'aimez pas le mot pour rire, frère Hans, chacun son caractère. Moi, je ne suis jamais mélancolique quand il s'agit de gagner honnêtement de l'argent. Parlons donc sérieusement, bonhomme, et faites-moi voir vos petites pierres. » Hans Spiegel s'agita sur son siège et regarda la porte. « Mon compagnon, » reprit l'Amitié, « je vous sers suivant votre envie. Je parle net maintenant parce que vous l'avez désiré. Souhaitez-vous qu'on mette tout à fait les pieds dans le plat ? Soit, frère Hans, vous ne venez pas de Karlsruhe. Si vous étiez de l'autre côté du Rhin, vous y resteriez et vous donneriez bien la moitié du prix des diamants de la Bernetti à l'homme qui vous fournirait les moyens de passer la frontière. » De rouge qu'il était, Hans Spiegel devint très pâle et murmura « Maître Koenig, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » « Ces coquines-là, reprit l'amitié sans s'arrêter à cette protestation, font maintenant un tort énorme aux duchesses. Je connais quelqu'un qui avait eu avant vous l'idée de l'opération. Mais vous êtes un jeune homme actif et plein de talent, monsieur Spiegel. Vous avez été plus vite que nous en besogne. Combien demandez-vous des écrins de la Bernetti ?» La figure maladive du juif s'assombrissait. Son regard était celui d'un renard poltron qui devient brave à toute extrémité et fait tête au chien quand on l'accule. L'amitié le considérait du coin de l'œil. Il se versa un verre de vin. « Je suis bien forcé de boire tout seul, reprit-il, puisque vous n'avez pas soif. » Il ajouta, en posant sur la table son verre vidé d'un trait, « Un joli jonc que vous avez là, mon camarade. » D'un mouvement instinctif, Spiegel serra entre ses jambes sa canne à pomme d'ivoire. Mais ce l'amitié était beaucoup plus vif qu'il n'en avait l'air. Il jeta son corps en avant comme un tireur d'armes qui se fend à fond, et son bras allongé par-dessus la table atteignit la canne qui lui resta dans la main. Alors eut lieu une scène muette et rapide comme l'éclair. Un pistolet jaillit en quelque sorte de la poche de Spiegel qui visa et tomba terrassé, avant d'avoir pu presser la détente. L'amitié, riant bonnement, désarma le pistolet et le jeta à l'autre bout de la chambre. « Je n'ai plus 25 ans, murmura-t-il, mais ma poigne est restée solide. Allons, relevez-vous, mon camarade, et si vous avez un autre joujou comme celui-là, gardez-le pour une meilleure occasion. » Tout en parlant, il dévissait la pomme d'ivoire de la canne et la secouait au-dessus de la table comme il aurait fait d'un étui. Un assez grand nombre de diamants démontés, qui, pour la majeure partie, étaient d'une grosseur considérable, roulèrent et s'éparpillèrent sur le tapis en lambeaux. Spiegel restait désormais immobile et semblait pétrifié. L'amitié prit au hasard 3 ou 4 pierres et les examina d'un air indifférent. « Avec cela, dit-il, un garçon comme vous, qui n'a pas de mauvaises habitudes, peut rentrer dans son village, épouser Lichen ou Gretchen, acheter une ferme, voire même un manoir, et avoir sa place au conseil municipal quand sa barbe devient grise. Mais il faut d'abord vendre cette marchandise qu'on ne peut pas porter au marché. » Il faut ensuite passer la barrière de Paris, où il y a des collets tendus. Il faut enfin franchir la frontière d'Allemagne, tout le long de laquelle le télégraphe a envoyé des pièges à loups, avec le signalement du futur conseiller municipal. Je ne vous en veux pas pour votre frasque, mon frère Hans, chacun défend son bien comme il l'entend, et ceci est votre bien, puisque vous l'avez volé. « Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Sans moi, vous étiez perdu. » Et comme le regard du juif exprimait une rancuneuse incrédulité, l'amitié ajouta « Les oreilles ne vous ont donc pas tinté. Vers 4 heures aujourd'hui, on a réglé votre histoire au bureau de la sûreté. Les diamants de Carlotta Bernetti venaient du levant et du couchant, du midi et du septentrion. » Elle avait une parure appartenant à la famille des princes Berezov, une rivière qui avait quitté pour elle l'antique écrin des comtesses Ratiani. Tel bracelet avait orné le poignet d'une pérèse d'Angleterre, telle broche avait brillé sur la poitrine d'une grande d'Espagne. C'est une collectionneuse, et selon son propre calcul, sa pacotille vaut plus de la moitié d'un million. « Au bas mot, » murmura Spiegel, qui retrouvait sa nature israélite. « À la bonne heure, » s'écria l'amitié, « voilà que nous nous réveillons. Les demoiselles de l'espèce de la Bernetti, quand elles se mettent à crier, ont des voix qui s'entendent à 3 lieues, à la ronde, comme les sifflets de chemin de fer. Autour de cet instrument principal et suraigu se sont groupées des voix plus mâles, appartenant à monsieur le prince, à monsieur le comte, à monsieur le président, à monsieur le maréchal, et même à quelques mauvais petits agents de change. La sûreté a failli perdre la tête. Résultat prévu, à 5 heures, on avait tout ce qu'il fallait pour pincer votre canne et vous. Et c'est vous qui êtes chargé de m'arrêter, demanda Spiegel avec assez de sang-froid. L'amitié éclata de rire. Pas du tout, répliqua-t-il. Je vous dis que je suis votre salut. Je n'appartiens pas le moins du monde à la police, mais la police m'appartient un peu parce que je vais et je viens d'une fleur à l'autre, comme les papillons. Notre métier n'est pas facile, monsieur Spiegel, pour ceux qui ne veulent pas, comme vous, se mettre dans le pétrin du premier coup. Vous avez fait une grosse affaire, c'est vrai, mais la belle avance, si elle vous rapporte un bénéfice net, 20 ans de séjour à Brest ou à Toulon. Nous autres, car je ne me vante pas, je suis tout bonnement membre d'une société qui jouit d'un certain crédit sur la place, nous autres nous agissons prudemment, regardant deux fois plutôt qu'une l'endroit où il s'agit de poser le pied. Nous n'improvisons rien, nos combinaisons ne s'exécutent qu'après avoir été fouillées avec un soin parfait. Moi qui vous parle, je verrai 1 million pendu à un arbre du bois de Boulogne, que j'en ferai 12 fois le tour avant de le décrocher. Mais arrivons à ce qui vous concerne. Vous êtes entre mes mains, mon bon frère. Je pourrais vous rançonner, je ne le veux pas. L'habitude de notre maison est de se contenter d'un honnête bénéfice. Je vous offre 50 000 francs et un passeport pour l'étranger. Est-ce gentil ? Donnez, s'écria Spiegel avec empressement, j'accepte. Monsieur l'amitié eut encore son bon gros rire. Minute, fit-il, en remettant un à un les diamants dans la canne creuse. Nous avons passé l'âge des étourderies. Moi, je ne me connais pas du tout à ces bimborions-là, et vous pourriez tout aussi bien me donner en échange de mes 2 500 louis, des petits morceaux de verre valant 30aine d'écus. Les affaires sont les affaires, monsieur Spiegel. Vous allez reprendre tout cela, ce qui vous prouve bien que je n'ai point envie de vous tromper, et cette nuit même, un employé de chez nous, qui est expert en joaillerie, se rendra à votre domicile, examinera les pierres et vous comptera l'argent. Le juif resta un instant indécis. Oh, fit l'amitié, vous aimeriez prendre la clé des champs tout de suite, je comprends ça, mais soyez tranquille, on va vous donner l'ordre et la marche. Si vous suivez de point en point mes instructions, votre nuit sera bonne, et vous voyagerez demain sur la route de votre chère patrie. En sortant d'ici, allez vous en dîner où vous voudrez, et restez longtemps à table. Vous concevez bien que ce serait folie de rentrer chez vous en ce moment. Vers minuit, pas avant, rendez-vous à la rue de l'Oratoire des Champs-Élysées et demandez la chambre que Papa Kunik aura retenue pour vous dans la petite maison située au fond de la cour du numéro 6. À 2 heures du matin, je dis 2 heures sonnant, vous entendrez gratter à votre porte, vous demanderez qui est là, on vous répondra « le bijoutier ». Je n'ai pas besoin de vous expliquer le reste. Quand vous aurez votre argent, vous dormirez la grasse matinée ou vous prendrez la poudre d'escampette à votre choix. Est-ce dit ? Il tendait sa canne à Spiegel qui la prit et répliqua « C'est dit ». « Eh bien dit !» appuya l'amitié en le regardant dans les yeux. « Ce qui est là-dedans vous brûle désormais les doigts et je crains que vous ne nous fassiez compagnie. » Il se leva et ouvrit la petite porte donnant sur l'allée. « C'est que, murmura Spiegel d'un air honteux, pour exécuter vos instructions, il faudrait avoir de quoi dîner. »« Ma parole !» s'écria l'amitié, « je me doutais de cela. Vous avez jeûné, mon pauvre garçon, avec des diamants plein vos poches. Allons, allons, vous n'êtes pas fort. Reprenez votre pistolet. Voilà 10 louis. À vous revoir. Je vous souhaite bonne chance. » Spiegel le quitta au bout de l'allée et se dirigea vers le marché du temple. Il avait caché la fameuse canne sous sa redingote et marchait à grands pas, regardant tout autour de lui avec inquiétude. Monsieur l'amitié, au contraire, tourna le coin de la rue de Vendôme, cheminant d'une allure paisible, avec les deux mains dans ses manches. Le cocher du coupé, qui semblait dormir, prit aussitôt son fouet, toucha son cheval et suivit au pas, à quelques toises de distance.